Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on démarre la troisième saison de Femmes d'aujourd'hui. Et honnêtement, ma femme d'aujourd'hui, justement, est venue me rappeler l'importance de ce rendez-vous, l'importance de ces interviews, l'importance de cette chaîne de solidarité, de communication, de soutien émotionnel que tisse Femmes d'aujourd'hui. Et elle est surtout venue me faire rappeler l'amour et le respect que j'ai pour mon métier. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, Femmes d'aujourd'hui.
Fatema Loul, bonjour.
Bonjour, salam alaikum.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui, Lalla Fatema, chbarak.
Alhamdoulilah, koul si mzien.
Merci beaucoup d'être là. Alors, Fatema, quand j'ai pris contact avec vous la première fois, vous m'avez dit, alors vous êtes aujourd'hui basée en France, vous m'avez dit, c'est un honneur et un plaisir pour moi de passer dans un média au Maroc, dans mon pays d'origine, sachant qui je suis, d'où je viens. Est-ce que j'ai vécu?
Tout à fait.
Yek?
Tout à fait.
Alors, Fatema, l'honneur est partagé. J'ai insisté et voulu pour qu'on démarre cette nouvelle saison de Femmes d'aujourd'hui avec vous, le premier jour, ce lundi 4 septembre. Voilà. Parce que, en fait, vous êtes une incarnation de la femme marocaine qui a de la volonté, qui ne baisse pas les bras. Quel que soit son environnement initial. Voilà.
Tout à fait. Tout
alors, Lalla Fatema, aujourd'hui, vous êtes une femme d'affaires. Yek?
On essaye. On va dire ça comme ça.
Vous êtes une femme d'affaires. Vous avez exposé dans de nombreux endroits prestigieux, notamment dernièrement, vous avez exposé aux Galeries Lafayette.
Tout à fait.
Exactement. Alors, vous venez d'où, Lalla Fatema? Men enti.
Alors, moi, je m'appelle Fatima, j'ai 41 ans, je viens d'avoir 41, donc je suis née au Maroc, à Kasbah Tadla, Kasbah Tadla, c'est à côté de Bani Malal. On était 5 enfants quand j'ai perdu mon père.
D'accord.
J'étais une petite fille, donc j'avais quoi, 11 ans, 10-11 ans, hein, même pas, j'étais très très petite pour une jeune fille. Qui n'a pas été à l'école parce qu'à cette époque-là, mon père, il me disait que l'école, ça ne servait à rien, qu'il fallait garder les animaux parce que mon père, c'était un éleveur.
D'accord.
Donc, je n'ai pas été à l'école. Je suis rentrée, on va dire, ce qu'on appelle l'équivalent de CP. Donc, j'ai passé un an à l'école, pas plus. J'étais très passionnée par l'apprentissage, mais malheureusement, mon père m'a dit de sortir de l'école. Donc, j'ai passé un an à pleurer. Tous les jours, je faisais le même rêve de dire « Ah, j'ai envie d'aller à l'école », mais malheureusement, on m'a empêché d'aller à l'école. Donc, malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai perdu mon père aussi à l'âge même pas 11 ans. Ah. Et on était 5 enfants. Les derniers frères et sœurs jumeaux, ils avaient 7 mois. Donc, je me rappelle comme aujourd'hui, les gendarmes sont venus toquer. On était une famille normale. Mon père, c'était un éleveur. Ça allait, on va dire. Ah. Bon, je suis désolée, je suis émue parce que
je comprends, Lalla Fatema. Je comprends, Habiba Diallo. Je comprends. Merci.
Je reste moi-même naturelle.
Voilà, Habiba, merci.
Donc, voilà. Donc, je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais en train de faire la vaisselle. Les gendarmes sont arrivés, ou à dire les policiers du Maroc. Je me rappelle comme aujourd'hui, toquait très, très fort. Et je lavais la vaisselle et je voyais ma mère courir vers la porte. Et je me rappelle déjà la veille, mon père, il était parti, il me regardait de loin. Et c'était bizarre. Il me disait au revoir, prends soin de ta famille, à demain. Donc voilà. Il est parti. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Et comme mon père, il n'est même pas que je joue. En fait, je n'ai pas eu d'enfance. Je n'ai pas joué avec la poupée comme toutes les filles, les princesses, tout ça. Je n'ai pas connu ça dans ma vie. Il fallait s'occuper des animaux, nettoyer, j'avais pas de vie d'enfant, Donc, mon père, quand il est parti ce jour-là, bizarrement, j'étais soulagée, je sais pas pourquoi. J'ai senti que mon père, il est parti, que je pouvais aller jouer, en fait. Et je suis partie jouer la veille, mais j'avais le cœur serré quand même, j'ai senti quelque chose. La veille, ma mère commençait à pleurer. Elle disait, oh, pourquoi tu es partie, tu nous as laissé. On a senti qu'il allait arriver à quelque chose qui n'est pas normal. Le lendemain, on attendait tac, tac, comme ça, au niveau de la porte. Il y a le gendarme qui disait à ma mère, ramenez le livret de famille. Donc, ma mère, elle ramène le livret de famille. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, bah, votre mari, il a fait un accident. J'ai dit quoi? Moi, je lavais la vaisselle, il y a les verres qui se cassaient au milieu de ma main. Ouais. J'ai senti un sentiment d'abandon. J'ai dit, ouais, comment on va faire? On est 5 enfants. Les derniers, ils ont 7 mois.
Vous dites que c'est être petite fille, vous pensiez déjà, qu'est-ce qu'on va devenir?
Ouais, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que mon père, la veille, il a pris tout son argent. Il est parti avec cet argent parce que, en fait, c'est ça qui est bien. Parce que la veille, il me disait, j'en ai marre de vous voir souffrir, de s'occuper des animaux, tout ça. Je voudrais vous donner une meilleure vie, de vendre cette maison, d'aller acheter une maison juste en face, en ville. Parce que moi, je pleurais tout le temps. J'ai dit, tu nous as fait sauter l'école. Moi, j'ai envie de faire des études. Ah. Pourquoi tu as fait ça? Et quand j'étais petite, je prenais mes cahiers dans un sac en plastique et j'avais pas de chaussures. Je partais avec des chaussures en plastique et tout. Les sandales qui sont à la mode, là. Et j'allais faire une heure de Casbatadla jusqu'à le Meurs, exactement le Meurs. Parce que Casbatadla, le Meurs, c'était vraiment les maisons en terre. Donc vraiment, on n'avait pas les moyens, on avait de quoi manger. C'était, je portais mes cahiers, j'étais contente d'aller à l'école, même si j'avais pas de chaussures. Et j'allais vraiment marcher presque une heure pour aller à l'école. J'étais contente d'aller à l'école. Malheureusement, bah, ça a été un choc pour moi de sortir. Donc quand mon père est décédé, bah, ça a été l'enfer. Si vous voulez qu'il y ait l'enfer avec ma famille, il fallait que je m'occupe de ma mère qui était devenue dépressive parce qu'elle a perdu son mari. Elle était jeune, ma mère, elle avait quoi, même pas 27 ans.
Oui.
Ma mère aujourd'hui, elle a 56, 57. Et aujourd'hui, moi, j'ai 42. Donc ma mère, elle est jeune. Donc ma mère, c'est une femme jeune qui se retrouvait avec 5 enfants. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans les cafés. Je rentrais, il était 3 heures du matin. Je m'occupais de mes frères et sœurs, je mettais un dans le dos à devant ceux qui étaient gémeaux et j'allais chercher l'eau. Je suis désolée, pardon. J'allais chercher de l'eau dans la rivière parce qu'on n'avait pas d'eau pour nettoyer les couches. Pas les couches, il n'y avait pas les couches à cette époque-là. Toi, j'aime pas parler de tout ça.
Alors.
J'allais chercher de l'eau avec 2 enfants, un devant, un derrière. J'allais nettoyer les. Vous savez, avant, il n'y avait pas de. Pas de couche, fallait nettoyer les petits torchons là qu'on mettait pour les gosses. Et je ramenais de l'eau, je faisais à manger. Après, on avait déménagé à Casbatadla, ça, après tout l'enfer qu'on a reçu, j'ai dit ramasser de la poubelle pour pouvoir faire nourrir mes frères et sœurs et tout, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et on n'avait pas. Toute ma famille, ils avaient les moyens, ils ne nous ont pas aidés. Personne ne nous a aidés, en fait. Personne. On s'est retrouvés seuls, son père. On s'est retrouvés, bien évidemment, on a été attaqués par des hommes méchants qui sont venus parce qu'on s'est retrouvés sans père. Donc, j'ai dû me défendre aussi. Donc, j'ai dû me défendre parce que une femme jeune, belle, avec 5 enfants, bien sûr que c'est pas une petite ville comme ça, c'est pas évident. Donc, on s'est battu. Je me suis battue pendant des années. J'ai travaillé pour amener à manger. J'ai dû faire beaucoup de choses dans ma vie, travailler comme femme de ménage, je me suis fait maltraiter, je suis partie travailler dans les cafés, vraiment pour une petite fille tenir des restaurants, le ménage, faire à manger, tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils me disent, comment tu fais pour faire tout ça? C'est parce que j'ai vécu la galère, l'enfer dans ma vie, que j'ai appris grâce à des choses négatives, j'ai appris aujourd'hui à être une femme forte et à être partout, en fait. J'ai pas fait d'études, mais j'ai appris de la vie. La vie m'a appris beaucoup de choses.
Alors, Lala Fatema, Menhechi, de ça, de cette situation, de cet enfer que vous décrivez, à une femme d'affaires aujourd'hui. Comment ça a été possible?
En fait, j'ai rencontré mon ex-mari parce que je me suis mariée la première fois, d'ailleurs. J'ai divorcé au Maroc. Et après, je me suis remariée avec un Français qui était converti au Maroc. Et je vivais au Maroc, hein, j'étais bien malgré tout avec ma famille. Donc, je suis arrivée en France. Et j'ai revécu l'enfer avec ma belle-famille qui était raciste parce qu'on ne m'acceptait pas les faits que j'étais marocaine. Donc voilà, j'ai revécu l'enfer. En fait, moi, il faut que j'écris les livres de ma vie. Donc, c'est arrivé, je ne parlais pas un mot de français. J'essayais d'apprendre le français, apprendre les lettres, écouter la télé. Vraiment, je me suis dit, là, j'arrive en France, il faut que je sois absolument indépendante pour pouvoir aller chercher du travail, même si... Juste pour aller faire mes courses, aller à la pharmacie, c'est important pour moi.
D'être indépendante.
Il faut absolument savoir communiquer quand vous êtes dans un pays. Je ne vous demande pas d'avoir bac plus 5, juste être indépendant. Tu n'as pas besoin de ton mari pour aller acheter du pain.
Alors, donc, juste une petite parenthèse.
Je me suis débrouillée.
Justement, voilà. Pardon, une petite parenthèse par rapport à la langue. Et vous avez une page Instagram dans laquelle vous partagez beaucoup de choses. Et justement, avant de démarrer l'entretien, vous m'avez dit je vais parler en français parce qu'en même temps, on me critique beaucoup pour mon accent.
Tout à fait,
oui. Mais voilà, cet accent, il vient de très loin et porte tout son charme et toute votre histoire de vie.
Tout à fait, c'est pour ça que je ne l'abandonne pas, mon accent, parce que c'est ce qui fait que je suis qui je suis. Moi, je sais que je suis une Marocaine, je suis fière de l'être, je suis critiquée pour mon accent souvent, je reçois tous les jours les messages. Oui, parle en arabe, tu ne fous la honte, t'as vu ton accent, on dirait Gad Dalmaleh, mais je m'en fous en fait. C'est important. Après ça, ça vient des gens qui sont frustrés de la vie, mais les personnes qui sont intelligentes, ils me disent « Fatima, bravo » et tout. Pour moi, il est très important de ne pas oublier. On vient aujourd'hui, je suis une femme d'affaires, j'ai les moyens de prendre 4, 5, si je veux, de profs, mais je n'ai pas envie d'abandonner mon accent. C'est ce qui fait que je suis qui je suis et je suis marocaine et ça me fait rappeler de là où je viens. Donc, il faut garder son accent. Un italien a l'accent, n'importe lequel de personne du monde a un accent.
Absolument.
Il ne faut pas regarder les critiques, il faut avancer.
Alors, le mari français Fatima, vous l'avez épousé par amour?
Non. La vérité, non. Le premier, non. Le deuxième mari, non, pas du tout. Je ne vais pas mentir, hein. Non. Ouais. Le deuxième, je l'ai rencontré, j'ai trouvé l'amour d'un père. Ah. Plutôt que l'amour d'un mari, je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui m'a rapporté les choses d'une femme qui a besoin d'une jeune fille. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré, parce que j'avais divorcé déjà du premier mariage d'un Marocain que j'ai vu qui est l'enfer. Bien évidemment, on m'a fait vivre l'enfer. Et du coup, je me suis dit, pour une fois, je ne vais pas me marier par amour. Je me suis mariée la première fois par amour. Et bon, il y a d'autres choses par rapport à mon premier mariage que je n'ai pas trop envie de parler ici.
Je comprends.
Donc, je me suis remariée. J'ai dit non, pour une fois, je vais me marier avec quelqu'un que je sens qu'il va me protéger. Ah. Mais malgré tout, non, j'ai vécu l'enfant aussi. Après, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé et je me suis remariée, tout simplement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis heureuse depuis pratiquement 15 ans. Donc voilà, je suis arrivée en France, j'ai travaillé... en tant que vendeuse, je me suis battue. Après, avec mon travail acharné, je suis passée responsable d'un rayon qui est très connu en France. Il faut vraiment bac, des fois plus 5 pour travailler dans ce boulot-là. Donc, j'ai bossé comme une dingue, comme une acharnée pour avancer. J'ai toujours avancé parce que je travaille plus que les autres. Donc, c'est ce que je dis toujours. À un moment ou à un autre, on est obligé de travailler plus que les autres pour trouver notre place dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc, il faut parler la langue, il faut travailler dur, il faut travailler plus que les autres pour avancer. Sinon, on ne peut pas avancer parce que ce n'est pas évident quand on n'est pas chinois. Même quand on est parfois chinois, ce n'est pas évident. Donc, c'est important de travailler plus que les autres. C'est ce que je dis tous les jours. On peut réussir plus avec le travail acharné.
Alors, en plus de ça, quand on n'a pas fait d'études?
Ah bah ça c'est encore pire.
alors justement, comment vous faites techniquement pour lire, pour écrire, pour compter?
Je sais lire. J'ai appris à lire, à écrire, à parler correctement les fautes parfois, parce que c'est pas évident l'arabe et le français. Parfois, par exemple, un arbre, c'est masculin en français et féminin en arabe. Du coup, parfois, on peut confondre. Donc, mais sinon, oui, l'accent, c'est normal. Ça ne me dérange absolument pas. Ouais. Ça ne m'empêche pas de faire des projets de dingue, d'avancer dans mon travail. Au contraire.
Alors, comment vous vous êtes lancée dans les affaires, justement? Qu'est-ce qui vous a amené vers les affaires?
Alors, en fait, moi, ce qui m'a amené dans les affaires, surtout dans ce que je fais aujourd'hui, qui est la décoration d'intérieur, berbère. Premièrement, c'est faire travailler les femmes. Parce que quand j'étais petite, quand mon père était encore vivant, il y avait toutes les femmes de village qui étaient là en train de fabriquer les tapis en tissu à cette époque-là. On récupère les tissus et on fait les petits tapis comme ça en tissu et aussi en laine. Et du coup, j'étais petite, je fabriquais les tapis aussi avec ma mère. Je me rentrais avec les voisines, je me disais, ah, moi aussi, je veux faire comme vous. Du coup, ça me marque du sofa, la laine pour le corchel, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et pareil, pour nettoyer le sofa, faire les nœuds avec le petit l'objet là pour pas faire les nœuds, tout ça, faire travailler les tapis en laine. Ça a été vraiment une passion quand j'étais petite. J'aimais bien ça, voir les voisines là, ils sont là en train de faire les tapis, chanter malgré la pauvreté. Je les voyais quand même, malgré la fatigue, faire les tapis quand même, c'est quelque chose de fatigant, de long pour faire un tapis magnifique, ça prend beaucoup de temps. Du coup, c'est resté vraiment dans un coin dans ma tête. Je me disais, un jour, dès que j'ai un petit peu les moyens, je voudrais faire travailler les femmes du Maroc et surtout les payer bien comme elles méritent. Parce que je voyais ma mère faire les tapis malgré qu'elle était malade pour donner un coup de main aux femmes et tout, pour y arriver, pour pouvoir vendre un tapis pour manger. Malgré que moi, je travaillais, ça a été compliqué. On pouvait pas, ça a été très, très, très dur pour nous de manger. Donc, il fallait travailler un peu de partout, pour trouver les moyens de manger. Et donc, j'ai continué ma vie. Là, ça fait 4 ans maintenant que j'ai travaillé sur ce projet-là. J'ai commencé la fabrication. Donc, les femmes travaillent de chez elles, avec leur rythme, avec leurs enfants, et sont très bien payées. Parce que c'est important pour moi, le souligner, parce que souvent, ils sont mal payés. Donc, moi, en fait, en gros, j'en avais marre de travailler pour les autres. En grand, je faisais 60 heures, et je ne voyais pas mes enfants grandir. Je me suis dit, non, déjà, je me suis mis en tant que coach en style, j'ai accompagné les femmes pour la confiance en soi, etc. Quand le Covid est arrivé, eh ben malheureusement, j'ai fermé mon studio. Je ne pouvais pas voir mes clientes face à face pendant pratiquement 2 ans, 2 ans et demi. Et ça, si tu vois mon compte Instagram, tu verras, il y a les ongles à la une où j'apprenais les femmes à se maquiller, se mettre en valeur, la confiance. Je les ai accompagnées dans pas mal de projets. Et derrière, je me suis dit, là, c'est le moment de lancer ma marque de décoration. Ce que je voulais, ce n'est pas d'aller à Marrakech ou aller dans un souk et acheter les produits. Non, je ne fais pas les choses à moitié. Je sélectionne la matière première de A à Z, c'est-à-dire que le coton est travaillé de A à Z. Parce que ce que je voulais, c'est rapporter la modernité à le côté berbère et la qualité. C'est important. Du coup, j'ai cherché les artisans qui peuvent travailler pour moi. Et j'ai aussi agrandi le cercle des femmes qui peuvent travailler directement de chez elles. Et ma mère, c'est elle qui s'occupe des femmes. Et ça me rend vraiment heureuse de dire, je veux retourner dans mon pays et faire un projet chez moi. Je n'ai pas envie d'aller commander en Turquie. Je n'ai pas envie d'aller commander en Chine. Je ne suis pas contre ça, mais non. Au Maroc, on a de l'artisanat incroyable. Donc, il s'est fait de rapporter le côté chic et le côté qualitatif. Voilà, qualité haut de gamme et rester quand même dans les prix corrects, qu'ils soient accessibles. Parce qu'aujourd'hui, souvent on me dit, oui, tous tes produits, c'est de luxe. Pas du tout, j'ai des femmes qui ont un petit salaire et tous les mois, ils m'achètent un petit peu. Ils me disent, Fatima, on préfère acheter chez toi la qualité et soutenir l'artisanat marocain qu'aller acheter beaucoup dans un magasin qui ne sert à rien. Donc,
alors, votre marque Fatima, elle s'appelle comment aujourd'hui?
Alors, moi, j'ai toujours aimé le côté berbère. Au début, j'ai commencé à partager sans dire que c'était ma marque. Et en fait, indirectement, c'est mes abonnés qui ont choisi ma marque parce qu'ils me disaient, Fatima, j'adore le côté berbère et chic à la fois. Du coup, je l'ai appelé berbère chic. Mes abonnés, quelque part, ils ont décidé.
Fatima, vous êtes vraiment une femme pleine de surprises parce que cette petite fille qui a, comme vous l'avez dit vous-même, vécu beaucoup de choses très, très, très difficiles avant de se lancer justement dans la décoration. Elle a accompagné des femmes à retrouver leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en elles-mêmes. Votre confiance à vous, est-ce que vous l'avez jamais perdue?
Non, jamais. Jamais, jamais, jamais.
Malgré les difficultés, malgré la galère,
En fait, moi, je dis toujours que tout ce que vous vivez, vous allez vivre dans votre vie, il faut transformer en positif, pas en négatif. Sinon, on n'avance pas. Moi, j'ai toujours dit, tant qu'on a la santé, qu'on se réveille le matin et on est en pleine santé, on voit la vie. Non, il ne faut pas perdre confiance en soi. Au contraire, moi, les critiques, par exemple, ça me donne encore plus confiance en moi. Je me dis, si on te critique, si tu les déranges, c'est qu'ils n'arrivent pas à ta cheville. C'est qu'ils ont du mal à faire comme toi. Et pas prendre ça en négatif, dire « Oh, regarde, ils me critiquent pour mon accent. » Non, c'est parce qu'ils sont incapables de parler devant les gens comme moi. Ils ont un manque au niveau confiance en eux. Du coup, ce qu'eux, ils ressentent, ils essayent de me le passer indirectement. Donc non, au contraire, jamais je perdrai confiance en moi. Jamais de la vie. Jamais, parce que je suis quelqu'un de positif. Quand on est positif, on ne peut pas perdre confiance en soi. Ce n'est pas possible.
Fatima, l'enfance difficile que vous avez eue, elle fait de vous quelle mère aujourd'hui ?
Elle fait de moi la mère qui est juste. C'est-à-dire qu'en gros, mes enfants, ils ne manquent de rien. Mais j'inculte dans leur éducation qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon fils, il vient d'avoir 18 ans. Depuis l'âge de 14 ans, je lui ai jamais donné d'argent. Il fait du commerce lui-même et travaille. Il achète et revend. Il achète 6 livres, tout. D'ailleurs, même le petit, il a acheté des bonbons. Il a été faire le commerce au collège. J'ai dit, on ne la fait pas ça.
Ça, on ne le fait pas, par contre.
Oui, j'ai dit, il ne faut pas faire ça. Tu ne vends pas les bonbons. J'ai dit, mais maman, ça s'appelle la serre. Mais j'ai dit, non. Donc, exemple, les vacances, mon fils, il travaille avec moi. Je lui donne, j'apprends comment faire le commerce, comment emballer les choses, comment travailler un site. Voilà, pour moi, c'est important d'apprendre aux enfants. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens que je vais tout donner à mes enfants. Non, ils ont ce qu'il faut pour être confortable, pour ne pas vivre le même vie que moi. Mais par contre, ils sont très bien élevés de ne pas oublier où ils viennent, parce que c'est mes enfants, donc ils font partie de moi. Et il est très important pour eux d'apprendre. Donc, mon grand, moi, c'est la fierté de mon fils. Je suis fière. Ils sont fiers de leur maman. Ils font des critiques. Oui, tes enfants, ils doivent avoir honte de toi, tu ne parles pas français. Mais mes enfants, ils sont tellement fiers de leur maman avec tout ce qu'elle a vécu. Et qu'ils me disent, maman, tu es notre modèle. Tu sais faire à manger, tu sais faire les économies, tu es une femme d'affaires. Ils me disent, maman, j'espère qu'on trouvera une femme un jour comme toi. Et ça, c'est
une belle déclaration d'amour.
Voilà, la plus belle chose que moi j'ai aujourd'hui, c'est de mes enfants, ils me disent ça, c'est un bonheur. Je veux rien de mieux à part ça.
Alors, pour finir, Lalla Fatema, votre maman, justement, comme on dit, dit-il-ira.
Oui, tout à fait. Pour moi, ma mère aujourd'hui, c'est ma lumière, c'est mon soleil. Il est là partout pour à m'écouter, en fait. Ma mère, depuis que je perds mon père, je ne veux pas qu'elle travaille. Elle est là, elle donne un coup de main aux femmes parce qu'elle me dit, ma fille, je me sens vivante. Même si elle a des problèmes de santé, je me sens vivante à aller voir les femmes, de se retrouver ensemble, de travailler. Tous les jours, elle me dit, ma fille, que Dieu te protège et merci pour tout ce que tu fais pour les femmes, merci pour ce que tu fais pour toute ta famille. Parce que moi, quand je suis partie, j'ai continué à m'occuper de ma famille, à travailler pour ma famille. Pendant des années, je n'ai rien acheté pour moi. Et j'ai tout fait pour élever mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, ils sont tous mariés, ils ont une situation. Et je continue encore, s'il y a besoin, je suis là pour eux, en fait. Pour moi, la plus importante, c'est la famille.
C'est la famille.
La famille n'a pas de valeur.
Fatima, vous êtes justement l'incarnation de la femme d'aujourd'hui et vous êtes le profil, le genre de profil qui me fait prendre conscience de l'importance de ce rendez-vous, justement, et de la beauté de ces interviews et que j'ai la chance d'avoir avec des femmes exceptionnelles. L'Hertek, vraiment, merci.
C'est moi qui te remercie, merci. Vraiment, de donner l'occasion aux femmes comme moi de transmettre encore les messages plus loin.
Merci beaucoup de me faire aimer mon métier.
C'est moi qui te remercie.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.